Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Ce 14 juillet en France était marqué par le centenaire de la guerre 14-18, l'occasion de rendre hommage aux soldats qui se sont battus. Nous reviendrons sur la figure de Saint Pie X qui lança un vibrant appel contre les conséquences dramatiques de ce conflit. L'ordre des Camilliens achevait son année jubilaire à Rome. De nombreux défis attendent les religieux dans leur mission de service auprès des malades. Nous en parlerons avec le seul évêque issu de la famille camillienne du Burkina Faso. Nous reviendrons également sur la première université d'été des franciscains et puis la liberté religieuse se dégrade au Soudan. Soyez les bienvenus dans ce magazine. La guerre 14-18 à l'honneur ce lundi sur les Champs-Élysées à Paris. Le traditionnel défilé militaire à l'occasion de la fête nationale a été l'occasion de rendre hommage aux soldats qui se sont sacrifiés pour la France. Parmi les nombreux régiments qui ont défilé, certains étaient ceux des poilus, ces soldats qui se sont illustrés il y a un siècle. Une commémoration par ailleurs très internationale, puisque 78 nations différentes étaient présentes à Paris pour marquer la dimension mondiale du conflit et rendre aussi hommage aux autres soldats qui se sont battus, venant parfois du bout du monde. Ce conflit précipita l'Europe, le continent des Lumières, dans l'horreur d'une guerre totale et particulièrement meurtrière. Ce fut l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un nationaliste serbe le 28 juin 1914. Qui mit le feu aux poudres. Les déclarations de guerre se succèdent en juillet 14. Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne et Turquie, chaque puissance s'apprête à se lancer dans un conflit généralisé, la fleur au fusil, sûr de son bon droit. Un seul homme tentera de prévenir cet embrasement, en vain, Saint Pie X, qui lança le 2 août 1914 dans son exhortation « Dum Europa », un vibrant appel, un appel dans lequel il mettait en garde contre les conséquences dramatiques du conflit. Pour nous parler de la figure du pape Saint Pie X, Philippe Chenot, professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran.
Il a vu venir cette guerre, mais malheureusement, il n'a rien pu faire pour l'empêcher. Et il n'en avait pas les moyens et peut-être ni même la volonté, parce qu'il était quand même très affaibli. Il faut ajouter que Pie X n'était pas un diplomate, à la différence de son prédécesseur Léon XIII et de pratiquement tous ses successeurs. Il n'avait pas été formé dans le sérail, j'allais dire, de la diplomatie vaticane, et il n'avait pas beaucoup de goût pour ces choses-là. Et donc, une des caractéristiques de son pontificat, si je puis dire, a été précisément de désengager l'Église des affaires politiques au sens large. On voit d'ailleurs que le nombre des représentations diplomatiques auprès du Saint-Siège, comme d'ailleurs le nombre des nonciatures, a fortement diminué durant son pontificat. Donc il ne disposait pas des instruments, des moyens pour intervenir de manière efficace sur le plan diplomatique. Il s'est contenté, au fond, et c'est le seul texte dont nous disposons qui concerne précisément la guerre, parce qu'il est mort, au fond, moins d'un mois après le déclenchement des hostilités. C'est un texte assez émouvant dans lequel il est adressé aux catholiques du monde entier, dans lequel il appelle à prier pour la paix, ce qui prévoit bien ce que sera cette guerre et les conséquences terribles qu'elle aura pour l'Europe. Il appartiendra d'une certaine façon à son successeur, Benoît XV, qui est élu au début septembre 14, de déterminer la stratégie du Saint-Siège dans le conflit. Et cette stratégie sera celle, comme on le sait, de l'impartialité, de l'impossibilité pour le pape de prendre parti. Parce qu'au fond, on trouve des catholiques des deux côtés. Mais c'était aussi une façon de permettre au Saint-Siège, alors vraiment sous le pontificat de Benoît XV, de tenter une action pour arrêter la guerre et pour créer les conditions d'une négociation qui aurait permis de mettre fin à cette horrible boucherie, comme l'a défini Benoît XV.
Alors, vous avez parlé d'un texte très émouvant, Dum Europa. C'est une exhortation qui a été publiée peu avant le déclenchement de la Première Guerre. Que sait-on de ce texte, au final, qui est fort peu connu ?
Pas grand-chose, en fait. J'avais moi-même étudié un peu ces archives. Je n'ai pas trouvé de documents qui permettent, au fond, d'en reconstruire la genèse. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Siège a été très, très, très préoccupé par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, qui n'a pas manqué de manifester une certaine solidarité avec l'Autriche-Hongrie. Il est intéressant de noter le rapport qui est préparé par les services de la secrétaire d'État à l'intention du successeur de Pie X, donc Benoît XV, on parle à propos des rapports avec l'Autriche-Hongrie d'un rapport confiant et cordial. Et c'est le seul pays où l'on emploie ces termes pour caractériser ce rapport. Il ne faut pas oublier que le pape Sarto était né citoyen autrichien en 1835 dans sa Vénétie natale. Donc il y avait un rapport au moins sentimental, affectif, assez fort, en tout cas avec la dynastie des Habsbourg. Cela dit, la diplomatie vaticane a toujours fait preuve de grand réalisme et démontre le fait que à 4 jours avant la mort, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand Sarajevo le 28 juin 1914, elle a signé un concordat avec la Serbie pour garantir précisément les droits des catholiques dans les territoires serbes. Et donc ne faisant fi en quelque sorte des droits qui étaient ceux de la couronne autrichienne comme puissance protectrice des catholiques dans ces territoires.
Est-ce qu'on peut dire alors que la diplomatie vaticane a un peu failli sur ce dossier ?
Elle a peut-être manqué de réactivité, c'est certain, mais la situation du Saint-Siège n'était pas facile. Il se trouvait relativement isolé sur la scène internationale. Au début de la guerre, pratiquement les seules représentations diplomatiques des pays européens étaient celles de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc cette situation ne permettait pas d'agir de manière très efficace. Le successeur, donc Benoît XV, cherchera d'être lui beaucoup plus actif, mais sans beaucoup plus de succès. Parce qu'au fond, la chose la plus étonnante, c'est qu'il n'a même pas été suivi, surtout d'abord par les catholiques eux-mêmes, qui se sont alignés dans les différents pays derrière leur gouvernement et pour défendre la patrie, etc. Donc on assiste à un développement d'un fort sentiment nationaliste dans les milieux catholiques contre lequel la papauté sera assez impuissante, il faut bien le dire.
C'était Philippe Chenot, interrogé par Manuela Affigy. Restons en France pour cette première. Nous vous en parlions il y a quelques jours. La communauté franciscaine se retrouvait ces derniers jours pour une université d'été à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, dans le sud-ouest de la France. Au centre des discussions, ce thème, la crise, les crises, un nouveau monde en train de naître, point d'interrogation. Anne-Sophie Novel a participé à la première table ronde vendredi dernier. Journaliste spécialiste des questions d'innovation sociale, elle a dressé un panorama de l'économie collaborative. Cette économie est du partage, on l'écoute.
Comment, dans un contexte de crise multiple, qui est plutôt celui d'une transition, nous pouvons tout réinventer, redonner un souffle nouveau à des logiques très anciennes, en nous appuyant sur des outils de communication liés forcément à l'essor du numérique, qui remodernisent en fait des logiques de dons, de troc, d'échanges, qui remettent aussi un peu plus de confiance entre les individus. Alors forcément, ceux qui vivent ça à un niveau très local avec leurs proches ou à l'échelle d'un village ou d'un quartier diront qu'il n'y a rien de nouveau, mais ça nous permet quand même d'échanger avec des personnes qu'on ne connaissait pas auparavant. Et c'est particulièrement réconfortant dans un moment où on a besoin de refaire sens, de réapprendre à vivre ensemble et de retrouver des liens plus authentiques et de se sentir appartenir à différents types de communautés, quel qu'en soit le motif.
Donc ce sont vraiment des outils qui remettent au centre les relations entre les personnes.
Certains diront que c'est une économie qui est plus horizontale, en réseau. On a appris à échanger de l'information et aujourd'hui on se rend compte qu'on peut échanger bien plus que de l'information. Donc on peut avoir une conversation sur un chat ou un réseau social, mais on peut aussi mettre en relation les objets qu'on possède et qui restent inutilisés dans nos placards. Une voiture reste à l'arrêt entre 90 à 95% du temps. Donc aujourd'hui, comment éviter d'avoir à construire de nouvelles voitures, d'utiliser plus de ressources, utiliser ce que l'on possède déjà bien et tout mettre en commun. Forcément, ça pose des questions après sur les conséquences en termes d'emploi, de production, de croissance. Certains ont peur parfois d'un retour au communisme, mais il n'en est rien. C'est plutôt dans une société qui s'est mise dans un mur, on a des alternatives qui poussent dans les failles de ce mur et il faut les observer, voir comment elles se développent, les accompagner, les réguler. On assiste à tout ça aujourd'hui.
Et comment vous voyez donc le rôle que l'Église peut jouer dans l'accompagnement de ces initiatives ?
Pendant longtemps, je me suis interrogée sur justement le rôle de l'Église dans la défense de valeurs plus écologiques, on va dire. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'agir à tout niveau. Donc l'Église doit aussi prendre sa part, montrer la voie, et en tout cas cette voie d'un monde respectueux de l'environnement et de son prochain, même si ça fait partie de sa vocation initiale. Mais je crois qu'on a besoin de nouveaux leaders. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une historienne spécialisée dans les questions justement scientifiques liées au climat, Naomi Oreskes, qui a écrit tout un ouvrage sur l'effondrement de la société occidentale, qui me disait « On peut garder espoir et aujourd'hui on a besoin de nouveaux leaders, de personnes qui s'engagent et qui montrent la voie et qui donnent envie d'agir. » Tout repose aussi sur la façon dont on peut impulser cette envie d'agir et donner confiance en chacun de nous, de croire en sa capacité de faire la différence et de croire en ce pouvoir d'agir qui nous est donné aujourd'hui pour, à son échelle et dans les choses qui nous passionnent le plus, quels sont les efforts que l'on peut mettre en œuvre et comment essayer d'aller vers un monde un peu plus durable pour l'avenir.
On voit qu'il y a quand même de l'optimisme et qu'il y a des choses à faire.
Je refuse de me laisser aller au pessimisme, même si parfois je ressens un peu de fatigue. Je suis dans des phases parfois d'introspection et de doute profond. On donne souvent cet exemple du symbole chinois qui veut dire crise, qui en fait veut dire aussi opportunité. Et je crois que dans cette période où il est normal de se replier sur soi, d'avoir des inquiétudes, les résistances au changement ont de tout temps été très très fortes. À un moment, il faut aussi cultiver le lâcher prise, abandonner ses croyances et comprendre que tout réinventer, ça implique aussi de se laisser émerveiller par d'autres choses. Et c'est pas facile dans un monde de complexité tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Les solutions ne sont pas faciles non plus. Alors elles sont déjà là, elles sont nombreuses. Elles sont peut-être pas réplicables à large échelle, mais à l'échelle d'un territoire ou localement, on peut mettre en place de nombreuses choses avant que les pouvoirs publics, à un niveau beaucoup plus global, fassent la différence. Donc on ne peut pas attendre que ça vienne du haut. Et je crois qu'aujourd'hui, la solution est dans les mains de chacun.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, est depuis dimanche au Mexique afin de discuter de thèmes liés au phénomène de l'émigration. Selon une note officielle du gouvernement mexicain, l'objectif de cette visite est de chercher à coordonner un programme commun entre le gouvernement et le Saint-Siège sur cette problématique. Le cardinal Parolin a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, José Antonio Meade, et a participé à un dîner de travail auquel étaient également présents les ministres des Affaires étrangères du Honduras, du Guatemala et du Salvador. Le secrétaire d'État devait rencontrer ce lundi le président mexicain Enrique Peña Nieto et participer à une réunion sur l'émigration et les droits fondamentaux. Nous vous en reparlerons dans nos prochaines éditions. C'est ce lundi qu'avait lieu la cérémonie de clôture de l'année jubilaire camillienne qui marque le 4e centenaire de la mort, le 14 juillet 1614, de Saint Camille de Lélis, le fondateur de l'ordre des Camilliens, appelé également l'ordre des serviteurs des malades. Un ordre bouleversé en novembre dernier par l'arrestation de son supérieur général par la garde des finances italienne pour avoir monté une opération interdisant à deux autres responsables camilliens de voter lors du chapitre. Il les avait fait séquestrer. Les camilliens ont élu au mois de juin un nouveau supérieur général, un Brésilien de 59 ans, le père Léocir Pessini, spécialisé dans l'éducation clinique pastorale, la théologie morale et la bioéthique. L'ordre qui regarde désormais vers l'avenir, conscient des nombreux défis qui l'attendent dans sa mission de service auprès des malades. Pour nous en parler, Monseigneur Prosper Contiebo, il est actuellement le seul évêque issu de l'ordre des Camilliens. Il est à la tête du diocèse de Tenkodogo au Burkina Faso.
On ne peut pas parler de crise pour l'Institut de Saint-Camille. S'il faut parler de crise, c'est au niveau central du gouvernement. Mais l'Institut, en tant que tel, se porte bien puisque le charisme est vécu dans les divers pays dans le monde. Donc, faut pas généraliser la crise.
Alors, quels sont les défis qui se présentent pour votre communauté, pour votre ordre, de manière générale, maintenant, pour cette nouvelle période qui commence?
On est en train de redonner un souffle nouveau, redynamiser cet esprit de Saint-Camille dans la vie et dans le ministère de tous les religieux camilliens. Alors, cela se passe à travers le ministère qui se vit un peu partout et à travers aussi la formation des jeunes. Donc, on peut dire que bon, il y a comme un renouvellement, une rénovation qui se fait maintenant.
Il y a beaucoup de jeunes qui désirent embrasser le charisme de l'ordre camillien.
Chez nous, au Burkina, on peut dire qu'il y a un certain nombre. Nos maisons de formation, je peux dire, sont encore pleines. Et donc, le charisme est attrayant, en tout cas pour les jeunes. Cette année, nous avons eu 4 ordinations sacerdotales. Et presque tous les ans, il y a des ordinations et il y a des professions religieuses. Donc, nous remercions Dieu, en tout cas, pour cette vocation qui, chaque jour, chaque année, en tout cas se voir dans nos milieux.
Dans votre diocèse, il y a une association, l'association Saint-Camille, qui s'occupe principalement des malades mentaux, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui. Chez nous, ces malades sont, j'allais dire, délaissés. Et ils traînent dans les rues, se nourrissant dans les poubelles. Et donc, cette association, voulant vivre l'esprit de Saint-Camille, a voulu créer un centre pour regrouper toutes ces personnes et essayer de voir comment elle pourra prendre soin de ces malades. Donc prendre soin en leur donnant à manger, en leur donnant de quoi se vêtir, bon, en leur donnant une humanité. Bon, ce que je peux dire, c'est une association qui vient de naître et donc qui a un peu de difficultés, de moyens pour pouvoir mettre en place la structure. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et sur la générosité des bienfaiteurs pour pouvoir en tout cas mener à bien cette activité qui est, j'allais dire, fortement de l'esprit de Saint-Camille.
Dernière question, vous êtes un évêque camillien, vous êtes le quatrième dans l'histoire de la fondation.
Bon, pour moi, c'était une grande surprise que je sois camillien et que je sois évêque à Tinkurugo. Mais si c'est la volonté de Dieu, nous l'acceptons avec joie. On est au service de Christ, au service de l'Église. Et moi, dans mon ministère, j'essaie de garder cette ligne, cette spiritualité de Saint-Camille. Donc, une attention particulière pour les malades, les abandonnés, les pauvres. Et j'essaie de ne pas perdre de vue cet esprit, cette formation d'ailleurs que j'ai reçue. Et donc, aller dans le sens que le pape François nous l'invite, aller vers les pauvres, vers les marginalisés, aller à la périphérie. Donc, je vis mon ministère dans ce sens.
Un entretien réalisé par Manuela Affigé. Restons en Afrique où le ministre soudanais des Affaires religieuses, Sali Abdullah, a annoncé ce dimanche que le gouvernement bloquerait désormais les permis relatifs à la construction de nouvelles églises, une décision qui inquiète la communauté chrétienne dans un pays où la liberté religieuse est de plus en plus malmenée. Antonino Gallofaro.
Le ministre des Affaires religieuses justifie sa décision par le fait que la communauté chrétienne dans le pays s'est fortement réduite suite à la sécession du Soudan du Sud en juillet 2011, dont provient la majorité des chrétiens qui vivaient à Khartoum. Le secrétaire général du Conseil des Églises du Soudan a immédiatement réagi sur une radio locale, affirmant que la décision des autorités soudanaises contredisait la constitution du pays. Selon lui, la constitution soudanaise stipule pourtant que les chrétiens bénéficient de la liberté de culte et d'opinion au même titre que n'importe quel autre citoyen du pays. Cette décision politique jette en tout cas la lumière sur la dégradation des libertés en matière religieuse. L'Église catholique soudanaise s'est récemment plainte de discrimination subie par les chrétiens vivant dans le pays. La situation juridique des chrétiens au Soudan est véritablement préoccupante, précisait il y a quelques jours à l'aide dans l'église en détresse l'évêque du diocèse sud-soudanais de Tamboura-Yambo, Mgr Koussala. Depuis l'indépendance du Sud, près d'1,5 million de citoyens originaires du Sud ont été contraints à quitter le Soudan, parmi lesquels de nombreux chrétiens. Selon Mgr Koussala, de nombreux prêtres ont été expulsés et les évêques sont contraints au silence parce qu'ils ne peuvent exprimer librement leur opinion propre. Mais les personnes les plus vulnérables sont les simples fidèles, comme dans le cas de Myriam Yahya Ibrahim Ishak. Cette jeune femme condamnée à mort pour apostasie le 15 mai dernier est toujours réfugiée à l'ambassade des États-Unis.
Syrie, Irak, ne nous habituons pas à l'horreur. C'est le titre d'une tribune publiée il y a quelques jours dans le quotidien français Libération et relayée par l'Œuvre d'Orient. Une tribune signée par près de 70 personnalités, universitaires, chercheurs, diplomates ou archéologues qui travaillent ou ont travaillé au Moyen-Orient. Depuis des années, depuis la première guerre du Golfe au début des années 90, notre oreille distraite entend les échos d'une violence déchaînée et multiforme, dont les racines complexes et le déferlement gênent notre compréhension et freinent nos réactions, se désolent les auteurs de la tribune. L'Irak n'est pas un pays lointain, sa paix est notre paix, peut-on lire aussi dans ce texte. Toute notre diplomatie, tout notre travail de coopération, toutes nos alliances doivent enfin être mises au service d'une solution durable pour l'Irak et la Syrie, écrivent encore les signataires. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.